avec nos enfants.
Je vous invite à trouver la parole de Dieu en Romains chapitre 3. Nous voulons considérer la loi, la foi et la grâce telles qu'elles sont décrites dans ce passage. Romains 3, 19 dit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils, c'est-à-dire tous ceux qui croient, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les trois verbes associés à la loi. Le verbe de justifier, le verbe d'apporter une connaissance ou donner une connaissance, et puis de témoigner. Et nous avons vu que la loi ne peut pas nous justifier devant Dieu, ne peut jamais nous déclarer juste devant Dieu. Mais la loi peut servir quand même à me donner connaissance de mon péché, mon besoin d'être sauvé. Et la loi de Dieu témoigne aussi de la justice que Dieu manifeste à l'homme, qui vient indépendamment de la loi. Regardez le verset 20, Romains 3, 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Donc, en considérant la loi, nous pouvons dire que la justice salvatrice de Dieu, et vous voyez plusieurs fois cette phrase « justice de Dieu », ça parle d'une justice qui sauve, une justice qui vous permet d'aller au ciel, ne nous sera jamais accordée par la loi. Romains 3, 19, j'aimerais vous demander de regarder encore. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que quoi ? Quel est le résultat de la loi ? Elle justifie certaines personnes, les meilleures personnes ? En fait, c'est afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu quoi ? Tout le monde reconnu coupable. Personne reconnu juste devant Dieu. Et puis verset 20, c'est par la foi que vient la connaissance du péché. Mais malheureusement, nous portons naturellement nos œuvres à la barre de la loi dans l'espoir d'obtenir la justice devant Dieu. C'est ce que nous faisons par nature. Nous amenons nos œuvres à la barre de la loi, nous disons, voilà, je crois, j'espère en tout cas que Dieu verra mes œuvres et il me déclarera juste. C'est un peu comme la personne qui a beaucoup de faux bijoux et elle continue à espérer et attendre qu'un jour elle va pouvoir avoir beaucoup d'argent avec ses bijoux. Mais la seule raison qu'elle s'attend, elle espère avoir beaucoup d'argent pour ses bijoux, c'est parce qu'elle n'a jamais essayer de les vendre. Elle ne les a jamais amenés, en fait, au bijoutier. Parce que le jour où elle le fait, elle va découvrir que, en fait, ces bijoux qu'elle a n'ont aucune valeur. Et c'est un peu la même chose avec l'homme et la loi de Dieu. La seule raison pour laquelle les gens continuent à espérer, à penser qu'un jour, ils vont être justifiés par leurs œuvres, c'est parce qu'ils n'ont jamais tenté, ils n'ont jamais vraiment apporté leurs œuvres devant la loi de Dieu. Et lorsque la norme de la loi est appliquée à nos œuvres, nous sommes tous condamnés. Tous condamnés. Et c'est ce que la loi a été conçue pour faire. Elle a été conçue pour nous montrer à quel point nous avons besoin d'un sauveur en dehors de nous-mêmes. C'est un peu comme un IRM ou une radio que quelqu'un fait. Ce n'est pas l'IRM qui est conçu pour vous guérir du cancer. Loin de là, c'est conçu pour exposer là où il y a le cancer, ou là où il y a un besoin. Une biopsie, c'est la même chose, pour savoir après comment on peut traiter. Mais on ne traite pas le cancer avec des biopsies, on ne traite pas avec des IRM. C'est conçu pour faire autre chose, c'est conçu pour dévoiler, démontrer le problème. Et la loi de Dieu n'est jamais conçue pour nous guérir de notre maladie, elle est conçue pour exposer notre maladie et notre besoin d'un sauveur. Les hommes, puisqu'ils sont des créatures de Dieu, sont tenus sous la loi, ils savent qu'ils doivent le garder. Il a été créé dans cet état et par conséquent, il y a en nous, quelqu'un dit ça comme ça, il y a en nous un penchant continuel vers la loi, un désir d'atteindre la justice par les œuvres de la loi. Nous sommes comme ça par nature, dans toutes les cultures, dans tous les âges. C'est comme si nous sommes mariés à cette façon d'obtenir la faveur de Dieu. La première personne, la première chose qu'un enfant même pense, c'est que pour être justifié devant Dieu, il faut qu'il fasse certaines choses et apporte ces choses donc à Dieu. La loi, la Bible dit en Romains 7, est comme un mari, elle domine sur nous aussi longtemps que nous sommes en vie ou que la loi est en vie. Et pour être marié à Christ, en fait, il faut mourir à cette relation que nous avons naturellement à la loi de Dieu. Mais notez ce que dit la Bible au verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, ou indépendamment de la loi est manifestée la justice de Dieu. » Vous voyez cette phrase, « justice de Dieu ». Regardez au verset 21. « Cette justice de Dieu est manifestée comment ? Sans la loi. » Ou indépendamment de la loi. Alors, ne pensez jamais que vous allez trouver la justice de Dieu qui vous sauve en vous présentant devant la loi de Dieu. C'est un peu comme un criminel, il échappe de la prison, il est en train de courir, il y a les gardes qui le suivent. Et donc il trouve une allée, il voit une maison, il va directement vers la maison, il frappe sur la porte, il dit « Ouvrez-moi, ouvrez-moi, il faut que je me cache !» Et quand il ouvre la porte, il découvre que c'est la maison du directeur de la prison. Il a frappé à la mauvaise porte. Et pécheurs, vous faites ça. Si vous sentez que vous êtes jugé, si vous sentez que vous n'êtes pas, comment dire, propre à aller au ciel, qu'il vous manque quelque chose, n'allez surtout pas frapper à la porte de la loi. Parce que lorsque la loi ouvre sa porte pour vous, elle ne peut que vous condamner. Elle ne peut que vous châtier. Parce que la loi demande une obéissance parfaite. Sinon, c'est la condamnation totale. Ne présentez pas vos œuvres à la porte de la loi. Alors, à quelle porte faut-il aller ? Alors vous avez vu la justice de Dieu, cette phrase au verset 21, on la retrouve dans le verset suivant, le verset 22. La justice de Dieu, et là c'est par quelle porte ? Que dit le texte ? Verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et c'est pour tous ceux qui... La justification par la loi est écartée comme possibilité. Cette route est barrée, ça c'est le verset 21. Alors, quelle est la voie qui nous est présentée à sa place comme moyen de connaître la justice de Dieu ? Là, il y a un moyen, il y a une porte à laquelle vous pouvez trouver la justice de Dieu. Et c'est la foi. La justice salvatrice de Dieu est accordée par la foi à tous ceux qui... Alors, je vous mets ici les mots grecs parce que, en lisant en français, on entend le mot foi, la foi, et puis on entend le mot croix, on dirait que c'est deux mots complètement différents. Mais vous voyez, en grec, par la foi, c'est le nom c'est pisteos, et puis le verbe c'est pisteuantos. peut pas dire avoir la foi, il faut foyer. Mais bon, on peut parler de croyance et de croire. Les deux mots sont intimement liés. Il y a le nom et puis il y a l'activité qui se dit comme un verbe. La forme nominale et la forme verbale. Par la croyance pour ceux qui croient. On voit que c'est souligner l'importance de la foi ici. Cette justice de Dieu qu'il veut donner à l'homme indépendamment de la loi, qui n'est pas fait pour cela, est liée à l'exercice de la foi. C'est par la foi, mais c'est pour ceux qui activent leur foi et qui croient. Donc, tandis que le fait de garder la loi par nos œuvres n'a rien à faire avec cette justice qui vient de Dieu, la foi a tout à faire avec cette justice. Notez les deux choses qui sont dites de cette foi dans cette phrase. On parle d'abord de la foi comme un moyen par lequel nous recevons la justice de Dieu. C'est un moyen. Vous voyez ça au début de verset 22, justice de Dieu par la foi. Et puis, deuxièmement, on va parler de la foi comme l'identification singulière de ceux qui sont justifiés. C'est pour qui? C'est pour tous ceux qui croient. Donc, vous voyez, la foi est un moyen de recevoir la justice de Dieu, et la foi est l'identité de ceux qui reçoivent la justice de Dieu. Donc, on va considérer ces deux choses. Et je vais le mettre comme ceci. D'abord, croire est le seul moyen de recevoir la justice de Dieu. Ce n'est pas en présentant nos œuvres devant la loi, c'est en allant par la foi. C'est le seul moyen de recevoir la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la loi et manifester la justice de Dieu, justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas lié par vos œuvres. Vous êtes lié à Christ par la foi. Une autre traduction dit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ ». Une autre traduction dit ceci « Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ ». Vous voyez, la foi est ici le moyen par lequel la justice de Dieu est acheminée aux pécheurs. Et il y a ici un contraste qui peut nous aider. Et donc, je le mets ici. Il y a le même mot « par » qui est utilisé de la loi et de la foi. Je ne sais pas s'il y a moyen de le marquer dans votre Bible, entourer ces deux mots « par ». Mais notez ici le verset 20. C'est par la loi que vient quelque chose. Et verset 22, il y a quelque chose aussi qui vient par la foi. Vous voyez ce contraste? Il y a le même mot en grec, « dia », qui veut traduire ici « par ». Par la loi vient quoi? Eh bien, la loi est le moyen par lequel vient la connaissance du péché. Mais par la foi vient quoi? La justice de Dieu, comme il dit. Justice de Dieu par la foi. Romains 4, verset 3, vous êtes pas loin, vous pouvez regarder, chapitre 4, verset 3. Je veux en fait vous faire voir plusieurs versets dans ce chapitre. Romains 4, verset 3, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, quoi? À justice, parce qu'il crut, c'est la foi, c'est l'activité, à justice. » Et notez ça, c'est une bonne traduction. « À justice et non pas comme justice. » Ce n'est pas la même chose. Regardez verset 5, Romains 4, 5. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous voyez, la foi, c'est le moyen de recevoir la justice. Une troisième fois au verset 9, regardez-le. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice. Regardez le verset 22. C'est pourquoi cela, il parle de la foi, lui fut imputé à justice. Quatre fois dans ce chapitre, la foi procure la justice. La foi est le moyen par lequel nous recevons la justice. Et c'est très important de saisir que la foi est imputée, comme je disais tout à l'heure, à justice et non pas comme justice. Qu'est-ce que c'est la différence? Ce n'est pas que Dieu regarde ma foi et dit, ça c'est impressionnant sa foi qu'il a. Avec toute cette foi, ça doit être un homme juste. Okay, ça serait l'idée donc de regarder ma foi comme une justice. Ma foi devient presque une œuvre qui me sert à impressionner Dieu. Et il y a des gens qui pensent à la foi comme une œuvre. Ah, je dois avoir plus de foi pour que Dieu me sauve. Non, ce n'est pas que Dieu voit notre foi comme justice. C'est que la foi entraîne la justice. La foi donne lieu à la justice. La foi résulte en justice. Mais la justice que nous recevons est la justice de Christ qui nous est donnée par Dieu. Cela est très clair en Philippiens chapitre 3, verset 9, où il dit que Paul veut, il donne son témoignage. Il dit, quand je me tiens devant Dieu, je vais trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Vous voyez, la loi dit, ah oui, Paul, tu es juste. Et il dit, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux même pas toquer à la porte de la loi. Je ne veux même pas présenter mes œuvres à la loi. Mais moi, je veux être trouvé en lui avec la justice qui, ou avec celle qui, ici, nous avons le même mot traduit par, en Romains 3. Littéralement, la justice par la foi en Christ. La justice par la foi en Christ. Mais notez comment les traducteurs l'ont traduit ici. Pas ma justice, mais la justice qui, qu'est-ce qu'il dit ici? Qui s'obtient par la foi. C'est une bonne traduction. Qui s'obtient par la foi en Christ. Vous voyez, la foi est la main tendue qui reçoit la justice. Mais la justice que je reçois n'est pas la mienne. Qu'est-ce que c'est la justice que je reçois? C'est la justice qui vient de Dieu. Comme nous lisons en Romains, justice de Dieu. Et je le reçois par la foi. Les enfants ici, imaginez un mendiant qui passe tous ses jours à mendier, à faire la manche. Et ce jour-là, il y a un homme qui est très très généreux et lui donne un billet de 50 euros. Il rentre à la maison ou à ses amis et il leur montre le billet de 50 euros qu'il a eu. Alors, est-ce que vous pensez que ses amis vont lui dire « Waouh, montre-nous ta main. Tu dois avoir une main impressionnante pour pouvoir attraper un billet de 50 euros. » Il dit « Oui, c'est ma main. C'est ma main qu'il a obtenue. » Alors, est-ce que c'est sa main qui lui a rapporté l'argent? Bien sûr que non. Sa main était tendue, elle était simplement le moyen par lequel il a reçu l'argent que quelqu'un d'autre lui a donné. Il ne peut pas glorifier sa main. Et nous sommes sauvés par la grâce, non pas à cause de notre foi. La foi, c'est simplement la main tendue à Dieu qui dit « Donne-moi !» Et Jésus dit, heureux les pauvres, les mendiants en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je donne le royaume aux mendiants. Et cette vérité est partout, partout dans la Bible. Nous avons par exemple 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Comment? Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, croire est le seul moyen de recevoir la justice de Dieu. Croire, faire confiance, demander comme un mendiant, venir à Dieu de cette manière. Mais vous savez, on peut toujours méprendre, et certains diront peut-être, certes, cela est vrai, par rapport à la foi, mais il y a quand même d'autres choses aussi, non? il faut la foi, mais il faut quand même aussi être sincère, avoir les œuvres, etc. Et donc, Dieu revient ici dans ce texte et il nous dit « croire est le seul trait distinctif de ceux qui reçoivent la justice de Dieu ». Il va dire quelque chose de plus, ok? Suivez avec moi. D'abord, il dit, verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Hein, ça, c'est le moyen. Mais maintenant, il y a cette deuxième précision. La justice de Dieu est pour tous ceux qui croient. Et puis, il ajoute quoi? Il n'y a point de distinction. C'est-à-dire, croire est le seul trait distinctif de ceux qui reçoivent la justice de Dieu. Vous avez 10 personnes et vous avez 5 personnes qui ont reçu la justice de Dieu. Vous commencez à regarder leur vie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont reçu? Ah, mais celui-là, il est très généreux. Celui-là, il est très patient. Celui-là, il est très respectueux de ses enfants. Et quand je regarde les autres, en fait, la Bible dit non. Il n'y a pas de distinction, en fait. Le seul trait distinctif entre ces cinq et les autres cinq, c'est que ces cinq ont cru à Dieu. Il n'y a aucune autre description, aucune. La foi exercée est la description singulière de ceux qui bénéficient de la justice de Dieu pour l'homme. Et j'imagine... Hein, que j'essaie d'imaginer une objection que quelqu'un pourrait avoir. Quelqu'un pourrait dire, mais comment la foi peut-elle être la seule description, la description unique de ceux qui reçoivent cette justice? Parce que quand moi je regarde le monde, moi je vois plein de différences, point de distinction. Certains sont très mauvais, d'autres sont très exemplaires. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de distinction entre le pape et Hitler, entre la Sainte Mère Teresa et, je ne sais pas, un despote ou un dictateur. Et d'ailleurs, ce qui fait mal, hein, parce que c'est là où ça blesse, qui oserait me comparer à n'importe lequel de ces hommes misérable. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de distinction entre moi et Hitler? Alors je vous dirai qui vous dira qu'il n'y a pas de distinction, c'est la Bible. Il faut bien accepter, les chrétiens acceptent cette vérité par rapport à eux-mêmes, même si c'est très humiliant. La Bible nous donne une défense en deux étapes du fait que la foi exercée est le seul moyen de sa réception, hein. Que croire est le seul moyen de recevoir la justice de Dieu, et du fait que, deuxièmement, la foi exercée est la seule description de ses destinataires, ou croire est le seul trait distinctif de ceux qui reçoivent la justice de Dieu. Et le premier de ces deux arguments, regardez-le, c'est à la fin du verset 22, ça c'est le raisonnement, c'est qu'il n'y a point de distinction. Alors ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde pense. Vous savez combien de temps et d'énergie nous dépensons en essayant de prouver que cette phrase est fausse? Imaginez deux enfants qui sont en train de se disputer entre eux. Et puis un parent arrive, ou la maîtresse, et elle les regarde et dit, en fait, entre vous deux, il n'y a pas de distinction à faire. Serait blessé, non mais c'est lui qui m'a tapé en premier, mais c'est lui qui est... Non, il n'y a pas de distinction à faire. Imaginez un couple qui dispute, et puis ils entendent une voix qui dit entre vous, il n'y a point de distinction. Ben non, mais c'est pour ça qu'on dispute, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est... Vous voyez, moi j'aurais fait autrement. C'est l'accusation qui fait le plus mal. soit un frère qui a été blessé par un autre frère, ou un ami qui a été blessé par un autre ami, et il garde l'amertume, et il a du mal à accepter que devant Dieu, en fait, il n'y a pas de distinction entre lui qui a été blessé et maltraité et l'autre qui lui a fait ce tort. De dire qu'il n'y a pas de différence entre mon adversaire et moi, c'est scandaleux. Et pourtant, c'est ce que dit la Bible. Et notez maintenant la deuxième étape de cette défense, en deux étapes. Hein. D'abord, il dit, il n'y a aucune différence, et puis il s'explique. Quelle est la phrase suivante? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de différence, réellement, entre les hommes? Parce qu'ils sont tous beaux, ils sont tous sincères, ils font tous de leur mieux. Non, il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché. Et parce que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ça, c'est la première chose que nous voyons ici. Ça n'avance plus pour moi. D'abord, le péché universel élimine toute distinction entre les hommes par rapport à leurs œuvres devant Dieu. Écoutez-moi bien, la Bible n'est pas en train de dire que vous avez fait tout ce que Hitler a fait. Elle n'est même pas en train de dire qu'il y a des péchés qui sont pires que d'autres. Jésus va dire à Pilate que celui qui m'a livré a fait le plus grand péché. Et il parle en Romains 1 du fait que Dieu livre des hommes à des péchés encore plus et plus mauvais. Il n'est pas en train de dire cela. Mais quand nous apportons nos œuvres à Dieu et nous passons par la loi, que nous sommes Hitler ou que nous sommes la meilleure personne imaginable, nous allons tous recevoir le tampon péché. Péché. L'homme veut penser qu'il sera sauvé parce que d'une manière ou d'une autre, il peut se démarquer des autres grâce à ses œuvres, grâce à sa vie. Mes voisins ont été chez moi dans mon salon, ils m'ont dit « Oui, il y a un ange qui est de côté droit, un autre ange qui est mauvais de côté gauche, et il vous souffle dans l'oreille, et si vous écoutez plus le bon, vous serez sauvé, si vous écoutez plus le mal. » Il faut se faire distinguer devant Dieu par ses œuvres. Et la Bible dit non, vous n'allez pas trouver une telle distinction précisément parce que, en fait, tous ont péché. 1 Jean 3,4 dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et tout le monde a péché, donc tout le monde transgresse la loi de Dieu. Et tous ceux qui transgressent la loi de Dieu sont donc condamnés par la loi. Et Jacques va le dire de cette manière, vous allez dire « Ok, moi, je n'ai pas commis l'adultère. Ok, bravo. Mais c'est vrai que j'ai tué quelqu'un. » Il dit, ok. Hein, il prend ces deux exemples. Ok, mais ok. Peut-être vous félicitez, vous n'avez pas commis l'adultère, mais vous avez tué quelqu'un. Vous avez donc brisé la loi de Dieu. Jésus, qui était le demi-frère de Jacques, il prend exactement ces deux commandements et il va les internaliser. Je ne sais pas si c'est un mot, j'invente là. Il va les rendre internes au cœur. Hein? Et il va dire, ok, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as brisé la loi de Dieu contre l'adultère. Et si dans ton cœur tu te mets en colère contre un frère ou une sœur, tu as brisé la loi de Dieu concernant la loi contre le meurtre. Alors, qui ici peut dire, jamais été en colère, jamais convoité, nous sommes tous coupables. Même s'il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi, vous êtes probablement beaucoup mieux que moi, mais nous sommes tous coupables devant la loi. Tout ça pour argumenter le fait de croire est le seul trait distinctif de ceux qui reçoivent la justice de Dieu. Il dit cela, il n'y a pas de vraie distinction à faire par rapport à nos œuvres, car tous, à la fin de la journée, si vous voulez, tous sont transgresseurs de la loi. Tous les hommes, naissent dans le péché et demeurent sous la colère et le jugement de Dieu. Mais c'est pire que cela. Regardez le verset 23. Non seulement est-ce que tous ont péché, donc il n'y a pas de distinction par rapport à nos œuvres, réellement, mais tous sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez réfléchi à cette phrase? La privation universelle de la gloire divine. C'est-à-dire que nous tous ici, tous privés de la gloire divine, ou la gloire de Dieu. Ça élimine toute distinction entre les hommes quant à leur position devant Dieu. D'accord? Donc, j'amène mes œuvres, je dis que elles sont bonnes, mais elles sont quand même pécheresses. Mais je dis, mais regarde qui je suis. Dieu nous regarde et je suis privé de la gloire de Dieu. Il n'y a vraiment pas de distinction entre les hommes à faire. Tous sont péchés, tous sont privés de quelque chose. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, dans votre esprit, retournez à Genèse 1 et 2. Dieu a créé l'homme comment? Dans l'innocence. Et bon, hein, il a vu, il a dit que c'était même très très bon. Il avait la connaissance de Dieu, il avait la communion avec Dieu, il vivait dans la justice, dans la sainteté. Et pourtant, il a été créé en vue d'une condition ou d'un état dépassant sa condition actuelle, présente. Sans quoi l'épreuve que Dieu lui donnait n'aurait eu aucun objectif. Il y avait une épreuve, s'ils passaient cette épreuve, ils allaient accéder à une certaine gloire. Et nous voyons dans la Bible que cette gloire est d'être revêtu, en fait. Ils commencent nus, mais ils auraient pu garder la loi de Dieu et être revêtus de gloire. Sa condition d'origine annonçait quelque chose de futur qui était encore mieux, une gloire encore mieux à venir. Dans l'innocence, sans honte, mais quelque chose de mieux était annoncé pour eux s'ils gardaient la loi de Dieu. Et peu de détails sont donnés, mais de nombreuses indications suggèrent que cette condition finale était une condition glorieuse. Et Paul va dire, donc, il va parler de l'homme pécheur. En Romains 1, il va dire que l'homme a refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû et il a remplacé la gloire de Dieu par des images d'être créé. Et ici, dans ce verset, nous avons que tous ont péché en Adam, et donc aussi en Adam, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire personne, aucun descendant d'Adam, exceptant un, a connu la gloire pour laquelle il a été créé. Avant qu'il arrive, il a échoué. Quelqu'un dit, l'objectif pour lequel nous avions été créés, mais que nous n'avons pas atteint, était la gloire. Nous avons péché et nous sommes passés à côté de cette destinée. Et Jésus-Christ, qui devient homme, est le premier et même le seul, jusqu'à présent, à avoir traversé, idem, la période d'épreuve. Il a été totalement obéissant. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il l'a glorifié. Et la glorification de Dieu, de Jésus-Christ, est importante parce qu'il est glorifié en tant que Dieu homme. Il est glorifié en tant qu'un homme incarné. En tant que fils de Marie, il est glorifié. Il reçoit la gloire. Et il est les prémices, après, de ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, il y a une gloire qu'il va partager avec nous. Si nous sommes en Christ, une gloire que nous ne connaissons pas encore, nous, ça part de notre glorification. Donc, même si on veut se croire mieux que les autres, je suis sûr que personne ici va me réfuter là-dessus. Même si on veut se croire mieux que les autres, il n'y a point de distinction entre nous en ce que nous avons tous péché, n'est-ce pas? Et en ce que nous sommes tous passés à côté de la gloire de Dieu. Personne ne peut se présenter ici glorifié. Il va devant Dieu glorifié. Nous sommes tous privés. Personne n'a atteint la gloire divine qui était censée être la destinée d'Adam et Ève s'ils auraient obéi. Et donc, nous sommes tous, en fait, nous avons tous le même problème. Tous péchés, tous privés de gloire. On ne la voit pas, cette gloire, on ne participe pas à cette gloire. Nous sommes aveugles même, on ne peut même pas voir la gloire de Christ. Et nous ne pouvons pas non plus participer nous-mêmes à cette gloire. Et tout cela pour argumenter ce fait que croire est le seul trait distinctif de ceux qui reçoivent la justice de Dieu. Vous voyez son argument ? Toutes les personnes sont dans la même condition. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de distinction en tant qu'œuvre, en tant que position devant Dieu. Parce que nous sommes tous perdus. Et donc, toute personne peut recevoir la justice de Dieu qui vient donc par la foi. Ça, c'est ce que donne l'espoir à n'importe qui. Il dit, mais comment est-ce que Dieu peut me sauver? Je suis trop mauvais. Non, mes amis, ce n'est pas comme ça que Dieu vous sauve. Parce que personne ne peut se sauver. Vous êtes pareil que tous les autres. La foi me rend-elle méritant de la justice de Dieu? Non, non. C'est la justice de Dieu qui me donne, mais il me donne par cette main tendue par la foi. Et donc, comment identifier ceux qui viennent à Jésus-Christ? Le seul moyen, c'est leur foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et même cette foi ne vient pas de vous, hein, c'est le don gratuit de Dieu. Et donc, vous pouvez être le pire des criminels, mais vous pouvez venir au Seigneur Jésus d'exactement la même façon que le meilleur des personnes. Et finalement, dans la justice salvatrice de Dieu est accordée librement à l'homme par grâce. Ça, c'est le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, quand nous célébrons la Sainte-Cène, nous considérons la rédemption hein, qui est en Jésus-Christ, ce que Christ a fait. Mais ici, il dit, ils sont gratuitement justifiés. Justifiés comme un cadeau. Ce mot traduit gratuitement est utilisé en Jean 15, verset 25. C'est même la même phrase. Et ça dit ceci, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. » Cette expression « sans cause », c'est la même ici. « Sans cause, nous sommes justifiés sans cause. » Alors, il y a la cause en Jésus, hein, la rédemption, il y a la grâce, mais en nous, c'est sans cause. Si vous me voyez au ciel, vous dites, mais Timothée, pourquoi est-ce que Dieu t'a justifié? Je dis, ah, ben, je vais te raconter mon histoire. Non, non, ce ne sera pas ça. Je dirais, c'est sans cause en moi. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est la grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et quelle est la base de tout cela? Eh bien, c'est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes amis, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous ce matin. Parce que nous réalisons qu'entre nous, il n'y a pas vraiment de distinction. Si vous vous pensez mieux que les autres, ça c'est bien pour vous. Si vous pensez pire que les autres, ça aussi c'est bien pour vous. Personne ne peut présenter ses œuvres à Dieu et être déclaré juste. Tout le monde, que ce soit la mère Teresa, que ce soit moi ou n'importe qui, nous allons recevoir le tampon pécheur, pécheresse, inefficace pour vous déclarer juste. Mais nous pouvons tous venir à Jésus-Christ par la foi et recevoir gratuitement la justice de Dieu qui nous donne par sa grâce. Et vous pouvez exercer la foi. Et c'est, on a du mal, on dit, mais il faut faire quelque chose quand même. Non, parce que c'est en nous. S'il faut faire, c'est en nous. Non, c'est pas en nous, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. On vient simplement avec la main tendue On dit, Seigneur, je suis un pécheur, je ne peux rien faire pour moi-même. Sauve-moi. De A à Z, fais tout pour moi. Je ne puis rien faire. Donne-moi même la foi qu'il faut. Et Jésus dit que celui qui vient à lui, il ne sera certainement pas rejeté. Prions. Te louons, Seigneur, pour ce riche salut qui nous est accordé si gratuitement. Nous savons que l'homme est par nature aveugle à la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans l'Évangile. Il ne peut pas voir la splendeur de la gloire de ce qu'est cette justice de Dieu qui est offerte gratuitement à l'homme. Et donc l'homme continue à chercher dans le noir jusqu'à ce que tu lui ouvres le cœur. Et c'est ce que nous prions au Seigneur, que par ton esprit, tu ouvres le cœur de ceux qui sont ici présents, de ceux qui écoutent ce message au loin. Que tu ouvres leur cœur, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Qui puisse s'humilier et te croire que ce que tu dis est véritable et qu'ils peuvent s'appuyer entièrement sur toi pour la vie et pour la mort, pour le temps et pour l'éternité, et qu'ils connaissent la justice de Dieu qui les accordera une vie éternel auprès de toi. Ô Seigneur, sauve, car toi seul es le Sauveur. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir et comprendre ces choses et ne remettez pas à demain le salut, car aujourd'hui est le jour du salut. Vous ne savez pas ce qui se fera demain. Dieu ne nous a pas promis demain, mais il vous donne aujourd'hui.